On surveille du coin de l'œil le match de hockey masculin entre les États-Unis et la Suède. Toujours un seul but de marquer alors qu'on est à quoi? 3 minutes de la fin du match. Les Américains tiennent bon. C'est 1-0 face à la Suède. Si ce scénario se confirme, bien, on serait bien enligné pour une possibilité de finale Canada-États-Unis dimanche matin. Ce serait un beau get-together, comme on dit. Hey, avant de jaser d'actualité internationale, juste regarder comment ça va au niveau de la circulation et du trafic dans la région de Québec. Audrey.
C'est vraiment rough pour cette heure-ci. Il y a un bon ralentissement si vous êtes sur la capitale direction est. Je vous dirais entre Henri IV et Laurentienne, ouest entre Henri Bourassa et Laurentienne. Si vous êtes sur Robert Bourassa, direction nord, des problèmes à la hauteur de Wilfrid Hamel. Un peu plus haut, dans le coin de Val-Bélair, à la hauteur de l'avenue industrielle Henri IV nord, pardon, toujours au ralenti. Si c'est libéré sur Fossambeau, libéré plus haut dans le coin de Shannon aussi, devant la base militaire. Le gros crunch, là, il est comme direction sud surtout, puis ça traverse les ponts carrément jusqu'à l'autre bord. Là. C'est-à-dire que, dû à des accidents qu'il y a eu un peu plus tôt, Henri IV Sud, à partir de Charest, on sent le ralentissement jusqu'à sur la 20 direction ouest. Même chose pour Duplessis, à partir de Charest jusqu'au pont. Vous comprendrez que sur le pont, c'est bien compliqué aussi. Des problèmes sur la 20 direction ouest, sinon entre la route du président Kennedy et Taniata. Évidemment, vous voyez autre chose, c'est le 418-971-1021 texto.
La beauté de la radio qu'on fait et qu'on nous donne le privilège de faire, c'est que souvent, on peut s'arrêter pour regarder une situation d'un peu plus près. Dans un bulletin de nouvelles à la télévision, quand on arrive à la section internationale, là, ça tire comme une mitraillette, puis on passe d'un endroit à l'autre.
On prend pour acquis que vous avez vu tous les épisodes précédents.
Oui, ou qu'on s'est tapé tous les documentaires sur Netflix, puis qu'on est vraiment à jour, ce qui n'est pas toujours le cas. La Suède, à 1 minute 31 de la troisième période, vient de créer l'égalité dans un match qui va peut-être aller lui aussi en prolongation.
Ce serait le troisième match en prolongation aujourd'hui.
Hey, incroyable. Ben, regarde, on va parler.
Quelle drôle de journée.
Vive la parité internationale, là, la suprématie américaine et la suprématie canadienne.
Ça, challenger.
Ça semble pas mal terminé. Bon, on referme la parenthèse olympique, puis on revient à nos moutons. L'actualité internationale, souvent, ça va vite dans nos bulletins de nouvelles télévisées. Puis, on cherchait quelqu'un avec qui on pouvait parler des sujets qui, souvent, nous sautent en plein visage dans l'actualité internationale.
Un peu plus géopolitique, oui.
Quand on a parlé de Cuba, il y a quelques semaines, vous avez réagi fortement à partir du moment où ça visait les vacances qui s'en viennent pour bien du monde.
Ou des gens qui étaient déjà là-bas, qu'on ne savait pas trop comment le rapatriement allait aller. Puis il y a des compagnies qui avaient hésité avant d'annuler les vols. Puis tu sais, il y en a qui voyaient ça. « Ouais, mais moi, je m'en vais là-bas juste pour la plage. » Mais les impacts de cette crise énergétique-là sont tellement plus grands que ça.
On ne
les connaît pas.
Et justement, pour en parler un peu plus, puis je me souviens qu'il y a des gens un peu cyniques qui nous avaient fait la remarque, là, le voyage dans un tout-inclus, c'est pas la plus grosse inquiétude qu'il y a sur l'île de Cuba présentement. Et cette personne-là avait raison. On va aller rejoindre pour parler de géopolitique Éric Sauvé, vétéran des Forces armées canadiennes et président d'Innovigo, qui fait de la consultation en défense et sécurité. Éric Sauvé, bonjour.
Oui, bonjour à toi et à l'équipe.
Ça va bien?
Ça va très bien, très bien.
Cuba traverse aujourd'hui une crise majeure qui touche toute son économie, puis c'est inquiétant pour les prochains mois et même pour les prochaines années dans le contexte actuel.
Oui, ben, je pense que c'est la plus grosse crise que Cuba traverse depuis la révolution de 59. Il y a eu une crise quand le mur de Berlin est tombé, quand l'Union soviétique est tombée. Le peso cubain s'est écroulé, il y a eu des très gros problèmes parce que leur partenaire, c'est la Russie. Mm-hmm. Mais la Russie est revenue quand même, continue à leur fournir du pétrole en échange de la canne à sucre, dans le fond, d'autres produits cubains. Ça a été repris par le Venezuela. Mais là, comme tu as mentionné d'entrée de jeu, depuis que Maduro est tombé le 3 janvier, le plus gros partenaire de Cuba est tombé. Puis là, on a une crise pétrolière, mais on s'enligne vers une crise humanitaire aussi. Parce que faut penser au peuple cubain. Là. C'est pas juste les tout inclus. Là. Les gens là-bas vont avoir de moins en moins de bouffe. Les étudiants sont rendus en virtuel comme pendant la pandémie pour limiter les déplacements. Il y a une raffinerie qui a pris en feu. Ça risque de mal se passer dans les prochaines semaines pour la petite île.
J'aimerais ça que tu prennes le temps de nous faire un peu l'historique de l'île de Cuba, comprendre pourquoi l'embargo existe puis pourquoi, au fil des partenariats, on a créé la situation d'aujourd'hui.
Bien, on peut partir assez loin. On va partir de la révolution de Castro, OK? Parce qu'avant Castro, l'île était un peu le bordel de l'Amérique. Il ne faut pas se le cacher. Il y avait le dirigeant Fulgencio Batista. Il y avait des casinos, il y avait beaucoup d'Américains qui allaient là.
On est en quelle année à peu près, Eric, pour nous situer?
Ben, ça a commencé littéralement. Eux, ils ont débarqué Castro avec son frère Fidel et Raoul, puis Che Guevara, ils ont débarqué en 1956. Mais en 1959, ils ont pris le pouvoir. Ça s'est fait quand même assez rapidement. C'était une guérilla qui a fait tomber le pouvoir. Puis Castro s'est placé en dictateur assez rapidement avec le communisme, puis s'est distancié des États-Unis, est devenu un partenaire de la Russie et de la Chine en même temps. Puis, il a régné pendant au moins une quarantaine, plus d'une quarantaine d'années. Je pense qu'il est en 2008, il est encore président. Son frère a pris le pouvoir en 2008. Raoul a fait quelques réformes. Mais comme j'ai mentionné, quand l'Union soviétique est tombée, ça a vraiment fait mal à Cuba. Ils ont réussi à se repositionner. Éventuellement, là, le nouveau président, Miguel Díaz-Canel, n'est pas quelqu'un de la Révolution. C'est le premier qui n'a pas connu la Révolution, qui est né par la suite. Puis là, il est pas mal dans l'eau chaude en ce moment parce qu'il n'y a plus ses partenaires. Le Venezuela, la Russie l'ont pas mal laissé tomber, la Chine aussi. Fait qu'en ce moment, là, ils sont pas mal isolés comme ils.
Mais c'est pas quelqu'un qui avait essayé justement d'ouvrir un peu l'économie puis d'essayer de diversifier un peu l'économie cubaine?
Bien, quand Fidel a laissé sa place à son frère, Raoul, il y a eu une certaine ouverture. Puis quand le dernier président a pris la place aussi, il y a eu une certaine ouverture. Mais ces gens-là croient quand même aux idéaux de la Révolution. Hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, là, mais il y a des photos de Che Guevara partout, oui, puis Viva la Révolution. Puis ils croient à ça, puis ils ont essayé de l'exporter. Fait que c'est vraiment des believers qui croient que ça peut continuer. Mais là, en ce moment, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne. Puis quand le gouvernement n'arrive pas à fournir les services de base, c'est-à-dire, entre autres, le pétrole, mais tu sais, je veux dire, la nourriture, le logement et tout, là, ça va créer du mécontentement. Puis, les Américains mettent une pression énorme. Là. C'est vraiment un étranglement du régime auquel on assiste.
Qui aide Cuba présentement dans la crise actuelle? Y a-tu un pays, y a-tu des États qui sont capables d'acheminer des biens de première nécessité, puis ainsi de suite, là?
Il y a le Mexique qui voulait le faire, mais les Américains menacent de tarifs très élevés tous ceux qui vont aider Cuba. Fait qu'en ce moment, le Mexique négocie pour aider Cuba. Comme j'ai mentionné, le pétrole, c'est à la base parce que dans le fond, il y a une certaine production pétrolière à Cuba, mais ils n'en ont pas assez pour tous leurs besoins. Le Mexique a offert d'en fournir, puis il en trouve sur le marché noir. Mais je lisais sur The Economist, il disait les gens sur le marché noir seraient fous en ce moment d'aller à Cuba puis de se faire prendre par l'armada qui est encore là. Le risque est énorme. Puis les gens du crime organisé sont là pour l'argent, ils ne sont pas là pour des raisons politiques, hein, qui ne font pas aller dans des endroits que c'est difficile.
Oui, mais là, Eric, c'est parce qu'on ne peut pas les laisser crever de faim non plus. Là. Mettons, c'est quoi la suite de ça?
Bien, malheureusement, c'est un peu ce qui se passe parce que dans le fond, tu as des faucons au niveau du gouvernement américain, dont Marco Rubio, qui est un fils de Cubain, qui est un faucon, qui est partisan de la ligne dure pour faire tomber le gouvernement coûte que coûte. Et puis après ça, peut-être arriver avec des contrats lucratifs pour les hôtels puis dire on va rétablir les choses. Mais moi, j'ai l'impression que peut-être qu'on parle, justement, le gouvernement américain parle peut-être avec l'opposition en disant plus vite le gouvernement castriste va tomber, plus vite l'aide va arriver, t'sais.
Puis évidemment, l'économie touristique de Cuba est une bonne partie de ce moteur-là qui amène de l'argent. Mais là, tout ça est mis on hold aussi en raison de la crise.
Bien, le tourisme, c'est énorme. Le tourisme amène des devises étrangères. Il y a des gens, il y a beaucoup d'exilés cubains qui sont à Miami puis en Floride qui amènent de l'argent. Mais là, l'argent ne rentre plus. L'argent des touristes ne rentre plus. Fait qu'on est dans un cercle vicieux où l'argent ne rentre plus, le pétrole ne rentre plus. Les services de base sont vraiment coupés. J'ai un ami à qui je parlais qui arrive de Cayo Largo, justement. Il est allé, puis il m'avait dit qu'il était un peu inquiet d'y aller. Mais Cayo Largo, c'est au large de Cuba, puis c'est une île qui est ravitaillée aux 2 mois. Puis le personnel de l'hôtel il me disait qu'à chaque 2 mois, il allait voir leur famille. Mais là, il ne savait pas quand est-ce qu'il allait quitter. Puis il dit, là, littéralement, on voyait des gens pleurer souvent dans les corridors, tu sais, les gens de l'hôtel. Puis quand lui est parti, l'hôtel a fermé, puis il commence à regrouper des gens dans des plus gros hôtels pour limiter la consommation de pétrole et d'électricité. Mais là, justement, ça va très, très mal. Comme, je vois pas qu'est-ce qui peut arriver à moins que les Américains laissent de l'aide extérieure arriver du Mexique ou d'ailleurs.
Si la situation change pas, Eric, ça peut toffer combien de temps cette crise-là à Cuba avant vraiment là, qu'il y ait des...
Ça devienne risqué.
Oui.
Mais là, c'est la question qui est difficile à répondre parce que les Cubains ont souffert régulièrement depuis 1959, puis même avant, puis ils sont quand même habitués à avoir peu de ravitaillement, à avoir des pénuries.
Platement parlant, oui.
Non, mais c'est vraiment, c'est un peu leur vie. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Cuba. Moi, je suis allé deux fois, là, dont une fois comme en sac à dos. Là. C'est vraiment triste, la situation. J'étais jeune dans la vingtaine et puis on avait accès à plein de choses. Je veux dire, on avait l'impression que les Cubains étaient des citoyens de deuxième classe, littéralement, dans leur propre pays. Puis ils sont habitués à ça. Mais là, est-ce qu'ils vont accepter de souffrir encore longtemps? Parce que là, justement, ils ont accès, ils ont vu pendant des années à quoi l'Occident a accès, la richesse qu'il amène. Ils voient ça sur les réseaux sociaux aussi parce qu'ils ont quand même accès à tout ça. Est-ce que la jeunesse va se rebeller? Il y a beaucoup, beaucoup d'emprises du gouvernement cubain, du renseignement, la police, le contrôle, puis il y a beaucoup de prisonniers politiques à chaque manifestation.
Éric, je suis allé à Cuba une fois, puis en même temps, j'ai le goût de dire je suis pas vraiment allé à Cuba parce que je suis allé dans un tout-inclus.
C'est un univers à part, j'imagine.
Je vais te le dire, tu n'es pas allé à Cuba.
Ben, c'est ça, puis je l'avoue, mea culpa, mais j'ai l'impression que l'industrie touristique, c'est une arme à double tranchant parce que tu t'en vas jouer au prince dans un pays où les locals te torchent littéralement. Et eux autres en viennent, j'imagine, à haïr notre mode de vie, ce qu'on est, puis ainsi de suite. Ben, fait que oui, ça amène de l'argent, mais en même temps, comment tu veux faire autrement qu'haïr les gens qui viennent mener la vie que toi, tu rêves d'avoir dans ton propre pays, puis ton île qui devrait être paradisiaque?
Écoute, moi, j'ai visité beaucoup de pays d'Amérique latine. Okay? C'est vraiment mon lieu de prédilection. Je parle espagnol. Puis quand j'allais à Cancun, je suis allé à Cancun trois fois, mais je suis allé me promener beaucoup à l'extérieur. T'sais, Cancun, c'était mon point d'arrivée. Uh-huh. Puis je disais aux gens qui sont allés à Cancun, vous n'êtes pas vraiment allés au Mexique, honnêtement. Tu sais, c'est la zone hôtelière et tout. Ben oui. C'est la même chose pour les hôtels à Cuba. Je suis allé une fois dans un tout-inclus à Cuba. J'ai apprécié beaucoup. Mais je suis allé quand j'étais jeune comme backpackers. Puis on louait des maisons, on louait des chambres. À l'époque, ça disait des casas particulières, les maisons particulières.
Okay.
Puis on louait chez les Cubains. On est allé se promener à La Havane puis à l'extérieur. Puis honnêtement, sur un voyage de deux semaines, après une semaine, il a fallu qu'on retourne à Varadero dans une maison parce que c'était trop difficile de voyager. Les gens, moi j'avais 20 ans avec mon ami, les gens nous voyaient comme un dollar sur deux pattes.
Ah, ouais.
J'étais un jeune, pas nécessairement riche, mais je me faisais vendre des prostituées, de la drogue, de l'argent, tout plein d'arnaques constamment. Il n'y avait pas moyen d'avoir de quoi d'authentique de ces gens-là.
Puis c'était une opportunité pour eux autres.
Ah, j'étais un dollar sur deux pattes. C'était incroyable. Je veux dire, si j'étais assis dans un restaurant, il fallait que je regarde mon assiette parce que si j'avais le malheur de regarder une fille pendant plus qu'une demi-seconde, la fille se dirigeait vers ma table puis venait m'offrir ses services. Puis là, je parle des fois des femmes avec des enfants dans leurs bras.
Ah, mon fait Dieu Seigneur!
C'était en 96 quand justement il est en train de se rétablir de la chute de l'Union soviétique. Puis moi et mon ami, on a décidé après une semaine, on n'est plus capable de voir ça. On était frustrés, choqués. Puis pourtant, j'ai fait mes études sur Cuba, sur Che Guevara, sur Castro. Mais de voir l'impact là, de ce régime-là sur les gens. Puis j'ai parlé à des prostituées, j'ai parlé avec des gens, puis ils m'ont dit, les femmes, nos femmes font vivre les grands-parents, les oncles, les tantes, les fils, tout ça. On n'a pas le choix de faire ça parce qu'on n'a pas assez d'argent pour vivre. Puis c'est vraiment atroce, puis c'est une catastrophe. Là.
C'est plate de voir que des gens sont prêts à mettre de la pression sur une population puis à l'affamer dans une certaine mesure,
pour
mieux se placer sur l'échiquier politique. Éric, merci beaucoup. Super intéressant de jaser avec toi.
Merci, à une prochaine fois.
À une prochaine fois, Éric Sauvé, vétéran des Forces armées canadiennes, président d'Inovigo, qui fait de la consultation en défense et sécurité, pour nous parler de la situation cubaine.
Tu sais, actuellement, ce qui fait l'actualité, c'est « Oh mon Dieu, depuis qu'on a arrêté les vols vers là-bas, le prix d'un tout-inclus a explosé. » Oui, c'est plate pour le consommateur qui veut se payer un voyage. Mais l'impact humanitaire est tellement plus grand que ce qu'on peut voir. Là.
Les Américains viennent de marquer en période de prolongation. Victoire des États-Unis 2-1 sur la Suède et la suite se dessine pour le Canada.
Canada qui va affronter la Finlande, la Slovaquie qui va se retrouver à affronter les États-Unis.
On reparle de tout ça avec les détails dans quelques instants. On va se brancher avec Max Larouche pendant que les États-Unis célèbrent. Ça a été une journée très haute en émotion pour les amateurs de hockey de la planète, mais présentement, les astres semblent nous diriger vers la finale qu'on veut dimanche matin.
Si ça vous intéresse, c'est Quinn News qui a permis aux États-Unis de remporter le match contre la Suède en prolongation.
Le podium goal!
Ils ne sont pas encore sur le podium.
Je sais. Gravel.